Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis, c'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matchs de ma vie avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est...
Christophe Pélissier, entraîneur de la JOCR.
Et c'est une bonne réponse pour commencer. Bravo, bien joué. Ravi de t'avoir avec nous, Christophe. Actuellement, effectivement, entraîneur de la JOCR, avec qui tu es en train de vivre une très belle saison. Touche du bois, que ça continue comme ça jusqu'au bout. Toi qui as, par le passé, connu les joies de promotion avec tous tes clubs, me semble-t-il, de l'US Revel à Lorient, en passant par Luznac et Amiens, et à pas loin de 800 matchs de coach... il me semble, plus tout ce que tu as joué aussi, ouais. À quel point c'était difficile de sélectionner que 5 pour notre conversation?
En fait, c'est venu assez rapidement parce que c'est des choses, ouais, c'est des matchs qui ont marqué aussi mon enfance déjà au premier qu'on va discuter, mais mon enfance et puis toute la carrière de joueur et d'homme. Tout simplement.
Oui. La vie d'un homme, en fait, peut se retracer à travers quelques dates et quelques matchs. On va bien le voir ensemble. Allez, sans plus attendre. C'est parti pour les matchs de la vie de Christophe Pélissier. Et match numéro 1, Christophe, quel est ton choix, donc, et pourquoi?
C'est la finale de la... On va pas dire la Ligue des Champions, mais à l'époque, c'était la Coupe d'Europe des clubs champions entre Saint-Étienne et Bayern de Munich à Glasgow. 12 mai 76, alors la date je m'en rappelle énormément puisque c'est le jour de l'anniversaire des 40 ans de ma mère. Donc je me souviens parce que j'ai à ce moment-là 11 ans, 10 ans et demi, et je vis à Revel dans un petit village de 7000 habitants où c'est que déjà quand on va à Toulouse à 50 km, c'est quand même déjà un beau voyage.
Et là,
on est bien sûr à ce moment-là des fans absolus des Verts. La veille ou l'avant-veille du match, la mère de mon meilleur ami nous dit on va à Glasgow voir le match.
Non.
Alors donc nous, bien sûr qu'on n'y croit pas.
Oui.
On n'y croit pas. Et puis elle nous dit, si, on part à Glasgow voir le match. Maintenant, il faut aller décider tes parents. Mais mes parents, bien sûr, qui ne voulaient pas. je pleurais, je voulais y aller. Tout. Et puis elle est arrivée à force de persuasion.
Oui.
Et donc on est parti à Glasgow à 5h du matin, je me rappelle, en bus jusqu'à Lyon. Je me rappelle du trajet comme si c'était hier, alors que
ça date. Tu sais pas ce que t'as mangé à midi. Ouais.
Voilà, exactement.
ça nous arrive. Hein.
Ouais. Bus de Toulouse jusqu'à Lyon, avion Lyon-Glasgow, bus à Impérial Rouge pour arriver au stade.
Génial.
Voilà, et arriver dans ce stade de l'Hampden Park à Glasgow, où c'est ouvert, quoi. C'est ouvert parce que je ne sais pas combien on était, mais il y avait très peu d'Allemands. Et il y avait, c'était la marée verte.
Oui.
Wow. Donc ce match-là, il me marque. Et d'autant plus que il y avait du monde, bien sûr. Et nous, j'étais petit, même si je n'ai pas encore beaucoup grandi, mais on était petit avec mon ami. Et les Bobbies, quand ils ont vu qu'on était un peu contre les grillages, ils nous ont pris à tous les deux et ils nous ont assis sur la piste. Il y avait une piste devant les panneaux publicitaires à l'époque.
Ah oui ?
Et on a vu le match là. Et il y a un livre qui s'appelle, ce livre, il est gros comme ça, La fabuleuse histoire du football blanc. Et il y a la frappe de Bâtonnet qui va. Et nous, alors bien sûr, on sait que c'est nous parce qu'on voit deux ombres là-bas. On dit, regarde où on était. et on s'est vu. Donc voilà, ce match-là, il est marqué. Je revois encore comme c'était hier quand Beckenbauer, il passe devant nous avec la coupe. Bon.
Wow.
Voilà, donc on était des moments de tristesse. Et puis... voilà, on est rentré et on avait le maillot Manu France, bien sûr, qui m'était trois fois trop grand et ma mère était pas contente parce que je voulais le mettre tous les jours pour aller à l'école et elle pouvait pas le laver. Donc voilà, ça c'était le match, je l'ai en tête, oui, bien sûr.
Extraordinaire parce que, oui, ce voyage-là.
Ouais,
le
gamin
que tu es.
Voilà. Parce qu'en fait, on parle maintenant, c'est assez courant qu'on aille à Londres, qu'on aille ou encore plus loin.
Oui.
Mais il faut se remémorer, il y a 50 ans, quand je dis, on est dans un petit village au fin fond de la Haute-Garonne et on se retrouve à Glasgow le lendemain. Pour nous, c'est surréaliste. Et puis en plus, pour voir nos idoles.
Comment ils ont fait pour avoir les billets?
Et alors, je crois que le club de Revel, le club de foot de Revel, il y avait le vice-président qui avait une agence de voyage, M. Tanis, je me reviens même du nom, sur Toulouse. Et je crois que c'est, voilà, on était un bus, ils avaient les billets. Wow. Ah, ouais, c'était incroyable.
Quelle aventure.
Ouais.
Ouais. Et le match lui-même, ouais.
Le match lui-même, je me rappelle bien sûr des deux poteaux carrés, comme tout le monde.
Ouais.
Et de ce fameux but. Et puis la tristesse à la fin, la tristesse de cette défaite. Voilà, on est petit, on mesure mal. Mais je me souviens de l'ambiance, même sur le retour, c'était incroyable, cette ferveur qu'il y avait autour des verres.
Ouais. Et tu t'es senti tout petit pendant ce voyage, parce qu'à 10 ans, effectivement, c'était quelque chose.
Ouais,
même,
c'est quelque chose d'incroyable, parce que ça m'est arrivé de voyager après, je ne me souviens pas trop des voyages, mais celui-là, je m'en souviens comme si je l'avais effectué hier. Donc, ouais, c'est le premier voyage que je fais, et puis pour aller voir...
À l'étranger. Et tout.
Voilà, nos idoles qu'on voyait à la télé toutes les semaines, parce qu'à l'époque, c'était ça.
Dans ce drôle de pays qu'est l'Écosse, où les hommes portent des jupes et tout.
C'est ça.
Génial. Le 12 mai, tu avais dit, c'est l'anniversaire de ta
12
maman.
12 mai, oui, c'est ça.
Moi aussi.
C'est vrai?
Ma mère, oui. Et ma femme.
Ah, mais bravo.
Eh oui. Quand j'ai su que ma femme avait le même anniversaire que ma mère, j'ai hésité un moment, mais...
Ça dépend, ça dépend l'année après.
Oui, déjà. Donc tu as 10 ans le jour de cette finale. Alors, raconte un petit peu la vie de garçon de 10 ans à Revel. Alors, tu habites dans cette ville de combien de personnes?
À l'époque, il y avait 6-7 000 habitants. D'accord. Il devait y avoir 6-7 000. Maintenant, ça a dû s'éloigner un peu. C'est un tour de 10. Mais la vie, elle est autour du sport, tout simplement. C'est qu'on est... On est beaucoup d'enfants de cet âge-là. Et quand il y a Roland Garros, on joue tous au tennis. Quand il y a le tournoi des 5 nations, on va tous jouer au rugby. Et quand il y a le foot, on joue au foot. Quand il y a le Tour de France, on fait les tours de quartier en vélo. Non, mais voilà, on est. On grandit avec le sport. Donc, bien sûr qu'il n'y avait pas tant de matchs non plus à la télé que ce qu'on voit maintenant. Donc, quand il y avait un match à la télé, en l'occurrence, le premier club français qui brillait depuis presque l'époque de Reims. Donc, ça a été incroyable. Cette ferveur qu'il y avait, je trouve, au niveau Saint-Etienne. On était tous à jouer au foot, bien sûr, sur le parking. Je revois sur le parking. On voulait tous être Dominique Rocheteau, tout simplement. c'était l'idole. Voilà.
Oui. Et toi, il y avait qui à la maison, là, chez toi?
Mon frère, mes parents, nous on est quatre, mon frère. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai dû traumatiser mon frère, parce que du coup, mon frère est anti-sport, du coup, pas du tout intéressé par ça, plutôt par la musique, lui. J'ai dû le traumatiser avec ça parler de foot, parce que mon père, quand même, à la PAC, est un gardien de but, vraiment, toute ma famille est dans le foot. Donc, on a dû le traumatiser, je lui dis, dans son enfance, c'est pour ça
qu'il est allé vers autre chose. Et papa, il faisait quoi?
Mon père était ébéniste, il tenait mon grand-père, toute une famille. Il faut savoir que Revel, à ce moment-là, était la capitale du meuble d'art. Il y avait 96 artisans, 96 artisans qui construisaient les meubles. Mon père était là, et puis après, il a eu il a pris la succession de mon grand-père, et puis voilà, et puis, on n'a pas suivi, nous. Parce que ce soit mes cousins, que ce soit mon frère ou moi, personne. Et puis donc, la société, elle n'existe plus. Mais à l'époque, on était dans le meuble.
Moi, mes recherches sur Revel sont limitées au fait que le Jet 27 vient de là-bas.
Ah, j'allais l'ajouter.
ça m'a parlé tout de suite. Là-dessus, je dis, OK, c'est déjà ça. Le Jet 27, effectivement, qui vient de... C'est les frères Jean et Pierre, j'ai vu. Ouais.
Exactement.
Okay. Et toi, donc, à 10 ans, au moment où tu vas à Glasgow, tu es déjà en train de jouer. Est-ce que tu es déjà un bon petit joueur? Tu avais l'idée de
bon
peut-être
joueur.
Que... C'est non, j'avais jeune, mais...
On a toujours l'idée. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'à 10 ans, je joue gardien de but, parce que mon père était gardien de but, mon oncle gardien de but. Donc, moi, je joue bien sûr gardien de but, ça me plaisait. Et l'anecdote, c'est que je suis à l'époque, on appelait ça les minimes. On était minimes, cadets. Oui. Et à minimes, je suis sélectionné en Midi-Pyrénées. En tant que gardien. J'avais un problème, c'est que je faisais 1m10. C'était compliqué, mais bon, j'étais sélectionné quand même en tant que deuxième gardien. Et puis, il y a eu un match un jour où il y avait beaucoup de blessés contre Languedoc-Roussillon, je me souviens. Et le CTR de l'époque, le sélectionneur, m'a fait rentrer dans le champ, parce que je ne sais pas pourquoi. Et on a gagné 2-0, j'ai mis 2 buts et il m'a dit, c'est fini, tu ne joueras plus gardien. J'ai dit non. Parce que j'étais toujours dans la division supérieure... À Revel, et donc j'ai fini à jouer milieu de terrain. J'ai été sélectionné après en tant que numéro 10.
Presque malgré toi.
Ouais, presque malgré moi. Voilà. Après, oui, j'étais. Pour Revel, je faisais partie des joueurs, les meilleurs joueurs de ce club-là.
D'accord. Donc, tu es un petit garçon virevoltant, sportif.
Oui.
Tu cours partout.
Oui. Je fais beaucoup de sport. Comme je dis, on fait tout. Et d'ailleurs, ça m'amène après à jouer au tennis et à me faire mon premier métier, puisque mon premier métier, c'était de donner des cours au tennis, quand même. Mais j'adore tout. Après, aux grandes dames de mon épouse, parce qu'à la télé, dès qu'il y a du sport, il y a que le sport automobile que j'ai du mal à m'y intéresser vraiment. Mais après, tout le reste, j'adore.
Oui, je pense qu'on est un peu pareil par rapport à ça. Donc, ça commence ta liste avec une défaite. Donc, défaite de Glasgow. Mais tu retiens tout ce qui est positif autour. Parce qu'il faut toujours avoir le verre à moitié plein. N'est-ce pas? Mais on va enchaîner avec le match numéro 2, Christophe. Et là aussi, c'est des souvenirs qui vont faire mal parce qu'on est le 8 juillet 82 maintenant 82. À Séville et cette fameuse demi-finale de la Coupe du Monde.
C'est ça. Alors malheureusement, c'est une deuxième défaite. Donc mon enfance, elle a débuté, c'était pas très bon. Non, mais ce jour-là, j'ai le souvenir, on est donc 82, on a 16 ans, 17 ans, et donc tous les copains, on se réunit. Chez la grand-mère de Pierre, qui est maintenant le mari à ma cousine. Donc voilà ça. Et on regarde ce match tous ensemble. Et il y a une euphorie incroyable quand la France mène 3-1, ben, on se voit en finale de la Coupe du Monde. Et pour nous, la France, c'est vraiment un truc incroyable. Et puis. J'ai le souvenir, malheureusement, de cette égalisation et de cette élimination au tir au but. Et d'un moment d'euphorie, on imagine 20, 25 garçons, filles de 16 et 17 ans à regarder un match avec un petit peu des bières à droite à gauche. Voilà, une soirée, quoi. Et quand il y a élimination, on est tous prostrés. Et j'ai le souvenir, on est tous prostrés, il y a un jardin, et je me revois dans ce jardin, tout le monde, comme si on nous a coupé la tête, quoi.
Ouais.
Nous ont gâché la soirée.
Terrible.
Non, mais c'est vrai, ça a été un moment qui a été marquant. Après, ça a été, comme on disait, une très belle défaite, mais bon.
Oui, mais c'est vrai que par rapport à l'événement en lui-même, l'équipe de France à cette époque n'allait jamais très loin dans les tournois internationaux. Ouais. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Non, gamins aujourd'hui.
Et puis, je sais pas.
Ils ont vécu des tournois où la France.
Je sais pas si vous vous souvenez de cette Coupe du Monde, mais le premier match où c'est qu'on perd 3-1 contre
l'Angleterre.
Brian
Robson.
Ça y est, on croit qu'on va rentrer à la maison assez rapidement.
Oui, mais non.
Et puis, en plus, le match France-Allemagne, il a quand même, en termes d'esthétique, pas un résultat, c'est quand même un match extraordinaire. Il y avait quand même ces joueurs qu'on avait en équipe de France, et puis l'agression de Schumacher. Enfin voilà, il y a beaucoup de faits dans ce match qui font que c'est un match qui m'a marqué.
Oui, je pense que ça a marqué, pas seulement, évidemment, en France, on sait qu'il y a eu tellement de livres, même des pièces de théâtre écrites autour de ce match, parce que une dramaturgie extraordinaire.
Incroyable.
Mais même en dehors de la France, Christophe, moi ça fait partie de mes souvenirs. Mais vu d'Angleterre, évidemment, c'est rien à voir, mais pas la même détresse. Mais on était pas mal dans cette ma génération d'être tombé amoureux des Bleus à ce moment-là, parce qu'il y avait un foot un peu romantique.
Était... Ouais, voilà, exactement.
Les Platini, Giresse, Tigana, tout ça, tellement des beaux joueurs. Et donc, 2 ans plus tard, au moins.
C'est un champion d'Europe.
Il y a la championnat d'Europe. Ouais. Et donc, cette victoire est peut-être née
dans
cette défaite-là aussi. Hein,
peut-être même les victoires d'après sont construites. Hein.
Donc, tu as 16 ans, effectivement, lors de cette belle soirée. Enfin, belle soirée
jusqu'à la fin.
Ouais. Et là, t'en es où dans ta vie de footballeur alors, à 16 ans?
Là, je joue toujours à Revel. Alors moi... C'est vrai que Revel, il y a tout, c'est mes racines, c'est mon enfance. Et comme je dis, quand je ne vois pas le Beffroi de Revel pendant longtemps, et j'ai besoin d'aller me ressourcer. Et j'ai, alors pas à 16 ans, mais j'ai eu rapidement des contacts pour aller jouer dans... Parce qu'à l'époque, Revel, l'équipe... Alors à 16 ans, je commençais déjà à jouer en équipe 1 à Revel, qui était en DH, donc Régional 1 de maintenant.
Bon niveau quand même.
Et il y avait des clubs déjà de CFA qui voulaient chaque fois. Mais moi, j'étais trop bien avec mes copains.
Ah oui.
Et donc, je suis resté là. Et je suis parti à l'âge de 24 ans. Je suis parti donc à Muret. Jouer en CFA et après on est monté en national, donc c'est là où c'est que j'ai joué à un niveau disons proche du niveau pro. Et d'ailleurs il y a eu quelques approches de clubs professionnels, et quand j'avais 25-26 ans on m'a dit c'est dommage que tu ne sois pas un peu plus jeune. Voilà, mais j'ai pas de regrets par rapport à ça.
Mmh. Tu as joué, j'ai lu Eric Carrière à un moment donné.
Alors Eric, on a joué ensemble bien sûr, mais Eric était jeune, donc il attendait que je c'était mon remplaçant quoi, il jouait
pas.
Oui.
Voilà, donc, d'avoir Eric Carrière comme remplaçant.
Ouais, mais bon, j'avais 26, il avait 18-19. On en a parlé, on s'est vu il y a pas longtemps, on en a parlé, voilà, donc. Et d'ailleurs, quand on avait joué le 32e contre le Grand Monaco, le 32e de finale de Coupe de France, il était remplaçant, il n'était pas rentré, on en parlait. Voilà. Donc, j'ai dit, il fallait que j'attende que je me blesse. À l'époque, on était 13 et les remplacements, ils n'étaient pas.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Non, voilà. Donc, mais il y avait dans cette équipe-là, il y avait Dominique Casagrande, notre gardien, qui était après au PSG Séville. Il y avait Dominique Arribagé, qui était au TFC après. On avait quand même une équipe très costaud parce qu'en fait, C'est un club qui est à 20 km, une ville qui est à 20 km de Toulouse. Et le coach, qui est malheureusement décédé, était responsable du sport-études à l'époque et récupérait tous les joueurs.
D'accord.
Donc, et ces joueurs-là, on est arrivé à jouer en national et on n'était pas professionnel. Tout le monde était universitaire.
Oui.
Universitaire ou travaillait à côté. Donc, voilà, c'était vraiment de très, très bons moments.
Oui, j'imagine. Il y a un super esprit alors,
voilà.
Dans cette équipe-là. Ok, donc ta vie de footballeur, on est là. Peut-être que tu aurais dû partir de Revel plus tôt avec le recul.
Peut-être avec le recul, mais.
En même temps.
Voilà, c'est comme ça, c'est le destin.
Ça fait des bons souvenirs.
J'ai passé des bons moments aussi.
Ouais. Donc après des défaites, Christophe, on va enfin parler d'un match maintenant avec une victoire au bout. C'est ton troisième choix. Et là, on est le 12 juillet 1998. On est au Stade de France, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et Christophe Pélissier, il est où?
Je suis à Leucate. À Leucate, je suis en vacances, c'est le mois de juillet. Et ma deuxième fille vient de naître, elle a 2 ans. Donc, on est tranquillement chez moi. Et je regarde le match tranquillement à la maison. Après, voilà, j'entends beaucoup de célébrations et autres. Mais voilà, on avait fait, avec nos amis, on avait fait plus la fête après la demi-finale.
Ah, c'est vrai?
Ouais, voilà. Après la demi-finale, on avait fait plus la fête avec la victoire contre la Croatie qu'après la finale, parce que la finale, j'étais avec ma femme et mes deux enfants qui étaient très, très jeunes. Donc, voilà, on a vécu ça tranquillement. Mais c'était vraiment comme un aboutissement, je sais pas. C'était, c'était vrai de voir ça. Et c'est vrai qu'on s'était habitué un peu aux défaites, même si on avait été champion d'Europe en 84, mais on s'était un peu habitué aux défaites, des grands moments. Donc là, c'est vraiment plus contre le Brésil. Oui. Donc c'est ce qui donne encore plus de charme. La Coupe du Monde organisée en France contre le Brésil, donc il y avait tout pour faire... Ça marque les esprits.
Oui, j'imagine que tu as suivi toute la compétition. Alors, si tu as regardé tous les matchs.
Là, tous les matchs.
La pression montait petit à petit.
Tous les matchs,
on va peut-être le faire.
La pression, elle a commencé contre le Paraguay. C'est ça, oui.
En 8e.
À Lens, À Lens, quand Laurent Blanc marque. C'est un match, c'est un dimanche en fin d'après-midi, je me rappelle, parce qu'on est chez mes beaux-parents, mais mon beau-père qui n'est pas trop foot, il me dit ça va être facile. Et je dis je pense. Et puis, au fil du match, je dis ça ne va pas être facile.
Oui.
Après, il y a quand même ce match contre l'Italie où c'est que un penalty, donc.
Ouais, quart de finale. Ouais.
Quand on refait le parcours, ça a été dur à chaque match. Mais
oui,
c'était écrit.
Oui, mais parce qu'elle même la demi-finale.
La demi-finale, vous êtes menée. Menée 1-0. Ouais. Et deux buts de Thuram. Donc,
142 matchs avec les Bleus. Il marque une seule rencontre et il met un doublé contre
la Croatie. On parle souvent de signes dans le football, dans les saisons et tout. On dit là, il pourrait nous arriver. Ben là, je pense qu'il pourrait rien nous arriver.
Oui. Ben, je ne sais pas ce que c'est d'être supporter d'une équipe qui gagne la Coupe du Monde. En tant qu'Anglais, j'avais un an.
66.
Oui,
j'avais un an. On a un match.
Peut-être que j'aurai cette joie-là un jour.
Peut-être.
Je l'espère, en tout cas. Donc, à ce moment-là, à 98, t'as la petite trentaine. T'en es où, alors, dans ta vie d'homme?
Je joue toujours à Muret, en national, et je travaille comme prof de sport à Revel. Voilà, j'ai ma vie tranquille. Voilà, et puis...
À quel moment l'idée d'entraîner ?
Mais elle y est pas. En fait, elle y est pas. C'est rigolo parce que c'est à l'an 2000. Donc, le président de Revel est un ami à moi. Il me dit, tu pourrais pas nous donner un coup de main ? Je dis, ouais, je vais revenir jouer tranquillement. Mais donc, c'était en DH, national DH. Je dis, mais bon. Et en fait, je retrouve des copains avec qui j'étais là. On se prend au jeu. Et puis, les copains me disent, bah, tu sais... tu pourrais nous aussi, par rapport, parce que l'entraîneur, ça fait 20 ans qu'il est là, et c'est un peu à l'ancienne, on rigolait. Alors bon, j'amène quelques trucs, mais j'étais joué. Et puis, on fait une saison bien, et puis l'année d'après, le président me dit, bon, mais maintenant, il faut que tu me prennes l'équipe. Je lui dis, c'est tous mes copains, ça. Il me dit, bon, allez, fais-le, on verra bien. Ouais. Et cette année-là, on monte en CFA2. On gagne la Coupe du Midi que Revel n'avait pas gagnée depuis 50 ans. Et on fait un huitième de... On élimine l'AC Ajaccio qui était Ligue 2 au septième tour de la Coupe de France. Et on perd au huitième tour à Mende, un terrain enneigé. Mais on fait une saison presque incroyable. On perd très peu de matchs. Et je me prends au jeu. Et
bah forcément.
Voilà, donc, et à partir de là, 4 ans après, Eric m'appelle, Eric Carrière. Elle m'appelle en me disant qu'avec son frère, ils reprennent le club de Muret. Et que si je pouvais coacher. Et donc, je vais là-bas. Et donc, parce qu'ils sont redescendus, il y a eu des problèmes administratifs, ils sont redescendus en DH, là-bas. Et à la fin de la saison, l'USNAC, qui est en CFA2 à l'époque, me contacte pour... voilà, pour maintenir le club en CFA2, parce que c'est un village de 600 habitants, l'Isola, qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, je vais là-bas, et 7 ans après, et bien, voilà, on est monté en Ligue 2. Ça a été, bien sûr, après, vous savez ce qui s'est passé, mais on a fait CFA2, CFA, CFA National, National Ligue 2, avec un village de 600 habitants. C'est les 10 ans cette année, donc...
Extraordinaire.
On s'en souvient.
Oui, oui, bien sûr. Donc, de quelqu'un qui ne pensait pas du tout devenir entraîneur, quand c'est parti, c'était parti... sur les feux, c'est quoi l'expression en français? Sur les chapeaux de roue. Ouais.
Non, mais après, d'autant plus que quand j'entraîne en CFA2 et en CFA, je ne suis pas entraîneur à plein temps. Hein. Je travaille à côté.
Ah oui?
Ah, ouais, j'ai gardé mon boulot. Je suis entraîneur à plein temps qu'en 2009, quand on monte en national, parce que c'est obligatoire contractuellement.
D'accord.
Mais en fait... À la base, je ne veux pas le faire parce que... D'ailleurs, le club ne veut pas monter en national parce qu'ils disent 600 habitants, on regarde la poule, Strasbourg, Guingamp, Annecy, enfin, c'était Vientonon. On dit, on ne va pas exister.
Ouais.
Et en fait, les 4 premiers matchs, on fait 4 victoires. Et ça a fait le buzz. Et on a fini 10e de la première saison. Et puis, et puis voilà. Et puis... on y reste 3 ans avec la troisième année très difficile. On se maintient le dernier match contre le Paris Football Club. On gagne 2-0 et à partir de là, il y a Jérôme Ducrot, qui est le plus gros sponsor du TFC immobilier, qui arrive avec Fabien Barthez, que je connais comme il est ariégeois en tant que directeur sportif ou autre. Et en fait, tous les trois, moi, je dois partir à Amiens déjà, parce que je suis en contact avec Amiens en 2015. Et je me rappelle, quand je reviens, ils me disent tous les deux, on mange, Fabien, Jérôme Ducrot et moi, ils me disent... tu restes dans 3 ans, avec l'objectif dans 3 ans de monter en Ligue 2. J'ai dit, mais vous êtes des fous. On ne peut pas monter un village ici. Et en fait, on le fait la première année. Incroyable. Mais bon, malheureusement, après, on sait ce qui se passe.
Oui.
Voilà. C'est comme ça.
C'est comme ça. Et maintenant, tu arrives à être philosophe par rapport à ça. Mais au moment même.
Ouais, non, la cicatrice, elle y est toujours. C'est parce qu'en fait, ils nous ont. Moi qui arrive d'un milieu amateur, pour moi le sport c'est avant tout ce qui se fait sur un terrain. Et là, on s'est aperçu que les instances, des fois, sont plus fortes qu'une équipe entière sur le terrain. Mmh. Et ça, ça fait mal parce que, quelque part, il y a une certaine idée de la réussite dans le sport qui s'en va.
Oui, et du fair play.
Et du fair play, voilà.
Et du fait, effectivement, quand on a gagné sa place, quoi.
C'est ça, voilà.
Et on nous refuse la possibilité d'aller tenter l'aventure.
Oui, ouais, voilà, tenter l'aventure ouais. Parce que, voilà, c'était le pot de terre contre le pot de fer.
Oui, ouais, mais quand on a une petite fibre romantique, effectivement, ça fait mal.
Exactement. Ça fait mal. C'est pour ça que je dis que la cicatrice, elle y est toujours. Ouais. Et elle y sera toujours par rapport à nous, mais par rapport à ce que ça a représenté au niveau du sport.
Oui, voilà, ouais, simplement. Quelle aventure extraordinaire. C'est ce qui marque un petit peu ton parcours aussi, Christophe, c'est des aventures humaines. Parce que c'est aussi ça, c'est des histoires, quand on est coach, de trouver un groupe, faire en sorte que tout le monde adhère à un projet. Et quand on regarde ton parcours, c'est ce que tu arrives à faire à peu près partout, en fait.
Ouais, je pars du principe qu'on ne réussit jamais seul. Mm-hmm. Donc, il faut de l'unité dans toute entreprise, dans tout projet, il faut de l'unité. Donc un club de foot, c'est comme autre chose. Donc il y a le vestiaire, mais il y a tout un ensemble. Je crois que c'est important que tout le monde se sente avec un rôle à jouer dans une aventure. Mm. Donc c'est ma philosophie. J'ai eu quelques doutes quand je suis parti de l'USENAC et que je suis arrivé à Amiens, puisque c'était quand même un club qui était structuré, professionnellement ça. Et je me suis dit... Est-ce que ma façon de voir les choses va coller au monde professionnel ? Et les doutes, ils ont été vite étayés, pas dans le sens où ça réussissait. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ils sont venus te chercher ?
Ah oui ?
Ils sont venus parce que tu avais des résultats dans la mesure où, comment tu faisais. Donc j'ai dit, on va essayer de faire comme ça, et on verra si ça marche. Après, bien sûr qu'il faut adapter. Voilà, je me suis aperçu que... Même à haut niveau et même à très haut niveau, en Ligue 1, les réussites étaient souvent quand il y avait de l'unité, donc du partage. Donc c'est ma façon de voir les choses.
Il faut rester soi-même.
Exactement.
Surtout si ça a marché par le passé, c'est bien le cas. Vous écoutez les amis, les matchs de ma vie, le podcast de Beansport où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. Parfois, il y a un petit peu plus que 5, vous aurez peut-être remarqué. On arrive au match numéro 4 de Christophe Pélissier actuellement sur le banc de la JOCR. Club qui rêve de retrouver la Ligue 1 pour la saison prochaine, leader à 4 journées de la fin. Juste un petit mot d'actualité par rapport à ça. Comment décrire cette saison jusque-là, même si on va toucher du bois et évidemment entrer la scoumoune
jusque-là, c'est une saison qui réussit parce que vous savez, quand on descend, c'est jamais évident. Mm-hmm. C'est jamais évident de relancer la mécanique, la dynamique. Et je dis que le club a très bien travaillé dans son ensemble parce que c'est arrivé assez rapidement à ce qu'il y ait une osmose au niveau de l'équipe avec le public. On l'a vu encore hier soir par rapport à l'ambiance qu'il y avait dans le stade. Et je crois que quand il y a ça, ça peut augurer des bonnes choses. Mais les clubs avec qui on est à la lutte, on le sait aussi. Donc ça va être à dire jusqu'au bout.
Oui, bien sûr. On est en train de discuter, effectivement, chez Auditeur, le lendemain d'une victoire par 4-0, ici à Auxerre, contre Laval, et on est en train de regarder la pelouse qui est d'une verte magnifique. On dirait presque une pelouse anglaise. Et évidemment, venant de moi, c'est un sacré compliment. Dans ce beau stade qui a vibré hier soir, toi, le roi de la montée, Christophe, on te souhaite évidemment le meilleur pour cette saison avec Auxerre. Et on arrive au 4e match de ta liste. Et maintenant, effectivement, on va parler d'Amiens. Tu commençais à en parler un petit peu. Et on est le 19 mai 2017, et Amiens, ton club, va jouer un match à Reims. Il faut une victoire pour monter en Ligue 1 pour la première fois dans l'histoire d'Amiens, et ça va être une soirée de dingue. À toi de nous raconter.
Ouais, c'est une soirée incroyable, mais il faut bien penser qu'on est promu. Hein. On vient de monter de National à Ligue 2. Donc, on cherche à se maintenir.
Encore une promotion.
Ouais, on cherche à se maintenir le plus tôt possible. Et le gros club, l'épouvantail, c'est Reims.
Ouais.
Donc, on reçoit la première journée cette équipe de Reims. Et la première et dernière journée, à l'époque, ils faisaient comme ça.
Ouais.
Et j'ai le souvenir que France Football, quand ils présentent la Ligue 2, ouais. Ils ont, comme c'est la Ligue 2 Domino Pizza, et ça vient de se créer, ils classent les équipes avec les noms des pizzas. Et nous, ils nous appellent la pizza chèvre. Donc, vous vous rendez okay. bien compte que cet article a été vite affiché dans le, sur le tableau.
Source de motivation.
Voilà, et on reçoit Reims donc, le lundi. Et le lundi, dans le fameux journal préféré des Français sportifs, l'équipe, puisqu'il n'y a que celui-là, eh ben, on joue en décalé le lundi. Et en fait, il y a une grande page sur Reims. Et nous, on n'y est pas.
Ah oui.
Alors, j'ai demandé aux joueurs si on avait le droit de jouer. Voilà, c'était l'anecdote du premier match. Et on fait un super match. On fait 1-1 chez oui. nous, mais on fait un très très bon match. Et on se rend compte que face à un ogre comme ça, donc mm-hmm. on peut être au niveau. Mm-hmm. Et bon, voilà. Et puis la saison se passe comme ça. Et donc arrive...
Les chèvres enfin. Ils ouais. ont envie.
Mais on est à 6 journées de la fin, on va à Brest. Et Brest est premier, avait 8 points d'avance sur nous. Mm-hmm. À 6 matchs de la fin, donc il y a Donovan Leon qui est dans les buts, qui est mon gardien maintenant à la GIA, okay. et je lui racontais encore, il s'en souvient très bien. Mm. Et en fait, on gagne 3-2 à la 88e minute à Brest. Et donc, on revient à 5 points, au lieu d'être à 11 oui. demi-heure avant, puisqu'on était mené de 1. Et en fait... J'ai le souvenir que les joueurs rigolent dans le vestiaire. Oh, on est à 5 points. Oh, le président, ils disent on va monter en Ligue 1. Tout, mais on le prend à la rigolade.
Oui.
Et le match d'après, on gagne et les autres, ils ne gagnent pas. Et nous, on fait 5 victoires consécutives. Mm-hmm. Et on se retrouve avant la dernière journée où c'est qu'on est tous à 1 point. Lens, Brest, nous tous à 1 point.
Oui,
nous, on est devant.
Oui, assez extraordinaire.
On est devant, mais c'est serré. Il y a 3, il y a Strasbourg. Mm-hmm. On est tous. Et nous, la seule chose qu'on est certaine, c'est que si on gagne à Reims, on monte. Mmh. Et donc là, on arrive à Reims. Donc Reims, vraiment une grosse équipe. C'était Michel Derzakarian qui entraînait. Ouais. Et là, quand on part de l'hôtel, qu'on arrive au stade, on a l'impression que tout Amiens s'est déplacé. Il y a plus de 8000 personnes d'Amiens qui s'est déplacé. Parce qu'Amiens, à la base, ce n'est pas quand même une équipe. Mais bon, il s'est pris au jeu. C'est la ville s'est pris au jeu. Et on mène rapidement 1-0. Donc à la mi-temps, on est en Ligue 1, mais on se fait égaliser. Et après arrive la fameuse 96e minute où il y a un coup franc pour nous. Et j'entends le quatrième arbitre dans son oreillette qui dit à l'arbitre central 10 secondes. Il reste 10 secondes. Et il y a ce fameux coup franc où la balle rebondit une fois, deux fois dans la surface. Et ce but est là. Ben, je pense que là, on est déconnecté. Je pense, quand on se revoit et on revoit les images,
oui, oui.
on traverse tous le terrain. Voilà, pour nous, c'est quelque chose d'inconcevable.
C'était le dernier coup du match. Il a sifflé à la fin de match.
Ouais, c'est fini. Il n'y a pas eu d'engagement. C'est
Emmanuel
fini.
Borgo.
C'est ça.
Qui marque
Emmanuel
ce
Borgo.
But.
Voilà. Et en plus, je le fais rentrer à 10 minutes de la fin. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était très, très bon sur les coups de pied arrêtés. Et comme on dominait la fin de match, parce que nous on poussait, il y avait des corners, des coups francs. Il y a un premier coup franc, il frappe, il le met dans le public. La deuxième, là, et le troisième coup franc, le dernier, c'est Thomas Monconduit qui est capitaine,
oui,
qui lui dit « Sors de là, sors de là, je le prends ». Parce qu'en fait, quand il avait vu les deux, il ne l'avait pas supporté. Et il s'est retrouvé à un endroit où il ne devait pas être. Et c'est lui qui a marqué. Donc, comme quoi, quand je parle de signes, souvent, c'est ça. C'est...
Génial,
après,
ça,
après les entraîneurs, si on veut se faire mousser, on dit mais c'était préparé, c'était travaillé. Non. Pas du tout.
Il entre pour tirer les coups francs, mais tellement mauvais.
C'est ça.
Sors de là.
Exactement.
C'est génial. Mais j'ai revu les images évidemment, et j'avais écouté les commentaires parce que c'était un match retransmis sur OBN Sport, et mon ami Jérôme Bigot commentait.
J'ai revu pendant le confinement.
Oui.
Ils ont remontré le multiplex sur Bein.
Ouais.
Mais j'en avais encore la chair de poule.
Ah, oui.
Parce que on sait comment ça va se passer, mais
oui.
Mais c'est vrai que j'avais revu le jour. Il m'a dit jamais ça m'est arrivé, alors qu'il n'était pas supporter d'Amiens plus ou moins. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient même pas supporters d'Amiens, mais qui ont vécu ce moment-là aussi.
J'ai un petit frisson. Là. Alors, salut bien, Jérôme. si tu nous écoutes, c'était extraordinaire quand même. Et effectivement, tout le monde est couru partout, dans tous les sens.
Et le lendemain, c'est incroyable parce qu'on a parlé tout à l'heure de France 98. Mm-hmm. Quand on part du stade, on est reçu à la mairie, mais quand on part du stade à la mairie, c'est France 98 à Amiens.
Oui.
Il y a tout le monde dehors. Et il y a, sur le parvis de l'église, sur le parvis de la mairie, il y a 10 000 personnes qui nous attendent. Extraordinaire. Mais quand on est rentré au stade, le stade était à 2h du matin, il pleuvait, 2-3 heures, tout le monde nous attendait. Ça a été un week-end très festif.
Oui. Et quand tu es entraîneur et tu as réussi quelque chose comme ça, et je vois que tu as ce fibre sensible par rapport aux gens, justement, ça te fait quelque chose quand même quand tu vois ce qui s'est passé, ce que cette équipe a pu générer comme émotion.
Oui, mais alors, ce qui est bizarre, c'est que quand on est dans le moment présent, on ne s'en rend pas compte. Enfin, on ne mesure pas le... On mesure pas ça. C'est quelques temps après que, ouais, quand les gens nous en parlent, quand oui. si, que ça, oui. que, qu'on mesure le bonheur qu'on a donné.
Bien
c'est
sûr.
Ça.
Oui.
Et bon, voilà. Mais sur le moment présent, c'est vrai qu'on a du mal à. On voit les choses, mais on a du mal à les ressentir pleinement.
Et donc, la nuit qui suit ce résultat
elle a été très, très belle. Hein. On a fait vraiment une belle fête. Hein. Une belle fête.
Avec toute la ville, donc. Oui, donc tu as effectivement, avec cette belle équipe, marqué l'histoire du club et de la ville. Et donc, tous les supporters vont avoir ça. On parlait de ton premier choix tout à l'heure et les souvenirs forts qui restent de cette finale à Glasgow. Bah, tous les jeunes qui ont vécu ce moment-là.
Oui, bien sûr. Je
pense. Dans les années à venir, ouais, quand ouais, ils vont être mes invités pour le podcast, eux, ils vont dire, je me souviens de ce match. Contre Reims. L'équipe de Christophe Pélissier, tu vois. Formidable. On arrive au dernier des 5 matchs justement qui ont le plus marqué ta vie. C'est justement ce premier match pour Amiens maintenant en Ligue 1 pour Amiens, mais pour toi aussi. Nous sommes le 5 août 2017 et ça se passe au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Sacré baptême de feu quand même.
Ouais, c'est il faut se rendre compte. En fait, c'est le ce que j'expliquais. J'arrive de Revel avec une carrière totalement amateur à regarder. Souvent le dimanche soir sur Canal le match du PSG parce que c'est souvent le PSG au Parc des Princes et puis le Parc des Princes ça représente quand même quelque chose. J'ai vu en direct des finales de Coupe de France en tant que spectateur et autres. Et mon premier match en Ligue 1, déjà une division que je pouvais pas ne serait-ce que rêver pouvoir y être au Parc des Princes. Contre le PSG, et c'est le jour en plus de la présentation de Neymar. Donc c'est un grand barnum, quoi. C'est un grand barnum, et voilà, il y a Solveig qui mixe sur la piste, sur le terrain, c'est un truc de fou. Et ce match-là est marquant parce que mes parents ont même fait le déplacement, ils sont montés, ils sont au Parc des Princes, voilà, c'est... Voilà, pour le petit gars qui arrive du village, me retrouver à coacher un match au Parc des Princes de Ligue 1.
Oui.
Bah voilà, il y a beaucoup de choses incroyables qui se passent.
C'est déjà une belle réussite, effectivement. Ouais, voilà. Et quand je suis allé revoir les images, là aussi, évidemment, pour savoir un petit peu de quoi on allait parler, j'étais au match aussi.
Ah ouais.
J'étais pas avec tes parents, mais j'étais. Peut-être que si, on sait jamais. Mais j'étais, oui. Et j'avais été frappé par la qualité de Tanguy Ndombele ce jour-là. Et quel joueur. Et malheureusement, ouais. Il est parti trois semaines après.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il fallait pas qu'il soit bon au parc.
C'est ça.
Tu aurais dû le laisser au bon.
C'est un jeune que j'avais fait monter du centre en Ligue 2 avec nous et qui avait d'énormes qualités.
Ouais. Il avait été excellent contre le Paris Saint-Germain. Comment tu as vécu cette soirée alors avec tout ce barnum et
le match, je me souviens d'avoir perdu 2-0, je m'en souviens, mais le match en lui-même, il m'a pas marqué. Mais c'est simplement, c'est un peu l'environnement qui nous a marqué à tous. Le matin, on fait la balade à côté d'un hôtel, on était suivi par toute la police mobile. On avait cru que quand on arrive au parc, on voit tout ce monde. Ils sont pas venus pour nous, hein. mais il y a la présentation de Neymar ce jour-là, donc c'est incroyable.
C'est un spectacle.
Ouais, c'est un spectacle. Ouais. Moi, j'avais peur que les joueurs ils sortent à l'échauffement, ils prenaient des photos partout. C'était clair, c'était presque. Ouais, non mais. Mais bon, voilà, c'est un moment qui sera mon premier match en Ligue 1 au Parc des Princes. Voilà, on se souvient souvent quand on est jeune, on dit le premier match en pro ou autre. Mais moi, voilà, le premier match en Ligue 1, c'était contre le PSG au Parc des Princes et celui-là, je m'en souviendrai.
Et Amiens a fait une saison, une belle saison aussi.
Ouais, on finit 12e cette saison-là. Et donc, on se maintient assez facilement, j'allais dire. Et voilà, et puis. Je crois que le club d'Amiens aussi, c'était son premier match en Ligue 1, il ne faut pas l'oublier, oui, de leur histoire, ça. Parce qu'il y a des clubs, voilà, un club comme Auxerre, il est habitué, d'autres clubs qui sont habitués à être en Ligue 1.
Ouais.
Mais Amiens, c'était la première fois, donc c'est pour ça que ça a marqué énormément la ville.
Le seul passage de Ligue 1 du club, pour l'instant, effectivement, c'était ton équipe là. C'était en 2017, pardon, ce match 2017, au Parc des Princes, effectivement. Et cette belle saison derrière. On arrive au bout de notre conversation, même si, pour le plaisir, on peut prolonger encore quelques instants, parce que tu es parti à Lorient pour la prochaine aventure. Et là aussi, tu fais remonter les Merlus en Ligue 1. C'est quand même ta spécialité, les monter.
Ouais, je ne sais pas si c'est ma spécialité, mais bon, c'est vrai qu'en Ligue 2, chaque saison que j'ai fait en Ligue 2, je suis monté. Donc j'espère que celle-là va être, la même que les autres. Mais oui, j'arrive à Lorient avec cet objectif-là, parce que quand je rencontre M. Ferry, c'est l'objectif qu'il me donne. 3 ans, il m'a dit, 3 ans pour monter. On est monté la première année, donc voilà. Donc je suis resté 3 ans avec 2 ans en Ligue 1 derrière.
Ouais.
Mais voilà, c'est je arrive quand même à rester. Je suis resté 7 ans à Luzenac, 5 ans à Amiens, 3 ans à Lorient. Ici, ça fait déjà 1 an et demi. En sachant que la durée moyenne d'un coach pro, c'est 11 mois. Donc, c'est bon, j'ai passé la date.
Oui, c'est quand même fou quand on pense à ça, effectivement.
Il y a une turnover qui est incroyable.
Oui, et peut-être que les gens, quand ils ne pensent pas à tout ce que ça veut dire pour un homme ou une femme, et puis la famille derrière, tout ce que ça implique, parce que c'est une profession qui est devenue... C'est assez violent, la fin, souvent.
Oui, mais c'est assez violent souvent. Parce que, comme on dit, oui. Alors nous, je pense que quand on fait ce métier, on est un peu blindé. Mais c'est notre entourage.
Ouais,
c'est l'entourage, c'est difficile. Parce que, on s'est commencé, après chaque défaite, on est bon à jeter à la poubelle. Parce qu'on s'est trompé sur les joueurs. Parce qu'en fait, ils savent tous mieux que nous.
Oui.
Donc on le sait. Et puis maintenant, avec malheureusement les réseaux sociaux, ça a pas aidé, je crois, beaucoup ces choses-là. Donc oui, ça peut être violent, mais après c'est un métier de passion. Donc des fois, quand il y a un métier de passion, c'est comme l'amour, ça va très haut et puis des fois c'est très bas. Donc c'est comme ça, il faut le savoir. Voilà. Après, aujourd'hui ça va bien parce qu'on a gagné hier soir, mais dans 3 ou 4 jours, on remet de suite notre métier. J'allais dire. C'est pas notre savoir-faire, parce que c'est pour ça que je trouve que souvent c'est très réducteur les messages après sur les coachs. J'estime que pour moi un coach on le voit sur la durée, mais on n'a plus le temps parce que on est souvent soumis à la vindique populaire, et au bout de 3 ou 4 matchs un peu difficiles, on fait les valises.
Oui, c'est ça. Peut-être que tu as fait monter l'équipe il y a 6 mois.
Ouais.
T'étais le dieu et maintenant t'es un bon à rien.
Exactement.
Voilà, il faut le jeter.
C'est ça.
En tout cas, on voit quand tu parles de ces matchs-là que tes yeux brillent encore et que tu as toujours cette passion en toi, ce qui est bon signe pour la suite.
Ouais, mais c'est la passion du... J'ai la passion du sport, tout simplement. Et dès que je peux en faire, j'en fais. Dès que je peux aller en voir, je vais en voir. Et c'est n'importe quoi. Donc là, on a la chance d'avoir l'Euro, les Jeux Olympiques. On a un bel été.
Oui.
Et le Tour de France.
Tour de France, Wimbledon. Oui. On est parti pour passer de bons moments.
Exactement. Nos femmes aussi.
Oui, carrément. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir partagé ces souvenirs et des matchs avec nous. Et on te souhaite effectivement plein d'autres matchs mémorables à venir.
Je l'espère. Merci à vous de m'avoir invité.
Merci, c'est un vrai plaisir. On te souhaite beaucoup de réussite pour cette fin de saison. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Vous pouvez aussi en parler sur vos réseaux sociaux, bien sûr. Et sur la plateforme où vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. À très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.